Luigi Pirandello, à la pioche. Il avait plu à torrents toute la nuit, des trombes d'eau à croire que la maison serait emportée. Au crépitement violent de la pluie, le vieux Siroli, qui depuis plus d'un mois semblait hébété par le malheur imprévu qui l'avait frappé et qui en avait perdu le sommeil, secoua enfin sa torpeur. Il dit à sa femme, que le chagrin et l'insomnie accablaient comme lui, « Oh, demain, si Dieu veut, nous romprons la terre !» Dès l'aube, les trois fils du paysan, minés et jaunis par la malaria, se mirent à piocher en rang avec deux autres journaliers. Parfois l'un d'eux se redressait, la figure contractée par l'effort des reins, et s'essuyait les yeux avec un gros mouchoir de coton à ramage. « Courage !» disaient les deux journaliers. « C'est pas un crime, après tout !» Mais le paysan secouait la tête, puis crachait sur ses mains noircies et calleuses, et se remettait à piocher. De l'épaisseur des arbres, sur la côte boisée, arrivait de temps à autre un gémissement rageur. Le vieux, encore valide, surveillait de là-haut l'émondage et accompagnait ainsi de sa plainte son travail pénible. La campagne, infestée par la malaria pendant les mois d'été, semblait respirer à présent après la pluie abondante de la nuit qui avait fait déborder la crue des eaux dans le ravin. On entendait enfin, après bien des mois de sécheresse, le Drago couler avec un joyeux bouillonnement. Il y avait environ 40 ans que Siroli était métayer des terres de Sainte-Anna. Après tant d'années de lutte contre la fièvre malarique, ils avaient enfin réussi, sa femme et lui, à triompher du terrible mal. Ils espéraient qu'avec la grâce de Dieu et le temps, leurs trois fils arriveraient à leur tour à se préserver de la malaria qui leur avait déjà enlevé 3 autres enfants, 2 fils et 1 fille, ainsi que la femme du fils aîné. Qui sait si la petite orpheline âgée de 5 ans, la fillette de l'aîné de la famille, n'était pas menacée elle aussi du même sort. « Dieu est le maître, » disait le vieux en fermant les yeux. « S'il veut nous la reprendre, que sa volonté soit faite. C'est lui qui nous a envoyés ici, donc nous devons souffrir et travailler. » Dans sa foi aveugle, il se résignait sans cesse à toutes les vicissitudes de sa dure existence, les acceptant comme la volonté du Seigneur. Il avait fallu un malheur comme celui qui les frappait pour l'accabler, pour l'anéantir à ce point. Lui qui avait tant besoin de travailleurs pour le labeur des champs, il avait cependant voulu faire don d'un de ses fils au Seigneur. C'est le rêve de tant de paysans d'avoir un fils dans les ordres. Et lui, Siroli, avait pu le réaliser non par ambition, mais pour en faire le sacrifice à Dieu. Au prix d'économies, de privations de tout genre, il avait réussi à le laisser pendant toutes ces années au séminaire de la ville voisine. Enfin, il avait été récompensé de ses sacrifices en le voyant ordonné prêtre et en entendant sa première messe. Le souvenir de cette cérémonie était resté ineffaçable dans l'âme du vieux paysan. Ce jour-là, il avait réellement senti la présence de Dieu dans l'église. Il revoyait son fils, pâle et tremblant, se mouvoir doucement devant l'autel, dans sa magnifique chasuble toute frangée d'or. Il le voyait s'incliner devant le tabernacle et joindre ses mains immaculées en un geste de prière, puis les écarter de nouveau. Enfin, il s'était retourné vers les fidèles, les yeux fermés. Il avait murmuré les paroles rituelles et s'était retourné vers l'autel. Jamais le mystère de la messe n'était apparu aussi solennel au vieux. Il l'avait suivi, l'âme presque détachée des sens. Il avait frémi d'émotion, la gorge serrée par une angoisse très douce. Il entendait à côté de lui sa femme, une bonne vieille qui pleurait de tendresse, et lui aussi s'était mis à pleurer violemment, sans le vouloir, en prosternant son front jusqu'à terre, au son de la clochette, à l'instant suprême de l'élévation. À partir de ce jour, le vieux Siroli, malgré son expérience des choses de ce monde et toutes les épreuves qu'il avait traversées, s'était senti comme un enfant auprès de ce fils. Toute sa vie, écoulée parmi tant de misères et de travaux pénibles, lui paraissait à présent sans aucune valeur en comparaison de la pureté de ce fils, si près de Dieu. Et il s'était mis à parler de lui comme d'un saint, à l'écouter bouche bée, tout heureux quand le prêtre venait le voir de son collège des Oblats, où son talent et son zèle lui avaient valu la place de professeur. Les autres fils, voués aux durs travaux de la campagne, exposés au péril de la malaria, n'avaient éprouvé aucun sentiment d'envie à l'égard du sort de Giovanni. Ils étaient fiers, au contraire, d'avoir ce frère dans les ordres, orgueil de la famille. Quand ils étaient malades, la pensée que Giovanni priait pour eux les consolait. La nouvelle que celui-ci s'était souillé d'un délit honteux vis-à-vis des pauvres orphelins confiés à ses soins était donc tombée comme un coup de foudre sur la maison rustique du vieux Siroli. La mère, dans sa pureté patriarcale, n'avait pas même compris de quelle nature était le crime commis par son fils. Son vieux mari avait dû le lui expliquer à peu près. Elle en était restée abasourdie, horrifiée. « Giovanni, mais que me dis-tu ?» Siroli avait été ensuite en ville pour avoir des nouvelles plus précises, et dans l'espoir secret qu'il ne s'agissait que d'une calomnie, il avait été trouvé plusieurs personnes de sa connaissance. Mais à sa vue, tous s'étaient troublés, comme s'il leur inspirait horreur. On lui avait répondu durement, par monosyllabes, en évitant de le regarder. Il avait aussi voulu aller chez le Brune, le propriétaire de la terre dont il était métayer. Le Bruno, homme intrigant, conseiller communal, ami de tout le monde, de l'évêque aussi bien que du préfet, l'avait fort mal reçu. « c'est bien fait !» s'était-il écrié avec colère. « Prêtre, hein, prêtre et laboureur, êtes-vous content à présent ? Voilà bien le résultat de votre manie de vous élever au-dessus de votre condition, quoi qu'il vous en coûte, sans la préparation, sans l'éducation nécessaire. » Puis il s'était un peu calmé, avait promis de faire son possible pour étouffer le scandale. Mais comprenez-moi bien, pour l'honneur de l'humanité, par respect pour la Sainte Église, entendons-nous bien. Et le pauvre vieux s'était retourné chez lui comme un chien battu, ne retenant de tout ce qu'on lui avait dit qu'une seule chose, que son fils avait fui de la ville et avait disparu dans la campagne pour se soustraire à la fureur populaire, et que lui, son pauvre père, sous le poids de tant d'ignominies, serait malheureux pour le reste de ses jours et n'oserait plus jamais regarder personne en face. À présent, grimpé sur un arbre, il surveillait les mondages. Là-haut, personne ne le voyait, et il pouvait pleurer à son aise tout en travaillant. Il n'avait plus versé une larme depuis la terrible journée. En repensant à sa vie sans tache et à celle de sa vieille compagne, il ne pouvait arriver à comprendre comment un pareil monstre avait pu naître d'eux, ni comment il avait pu se tromper pendant tant d'années au point de le prendre pour un saint. Et dire qu'il avait voulu l'offrir au Seigneur, et qu'il lui avait sacrifié ses autres fils, si bons, si paisibles, si pieux, ses fils qui piochaient là-bas, pauvres innocents, à peine remis des dernières fièvres. Ah, certes, Dieu, si laidement offensé par cet autre, ne pardonnerait jamais. La malédiction du Seigneur pèserait à tout jamais sur sa maison. La justice humaine finirait bien par s'emparer du misérable, Elle saurait bien le débusquer dans la retraite où il avait été caché son opprobre, et ses parents mourraient du déshonneur de le savoir aux galères. Tout à coup, la voix de Carmine, le fils aîné, vint mettre un terme aux amères réflexions du vieillard. « Ô père, venez ! Il est arrivé !» Cyrulle eut un violent sursaut. Il se cramponna à la branche de l'arbre où il se tenait en équilibre. Il tremblait des pieds à la tête. « Giovanni, ici ! » Et que lui voulait-il ? Comment osait-il remettre les pieds dans la demeure paternelle, regarder sa mère en face ? « Va !» riposta-t-il hors de lui en secouant la branche de l'arbre. « Va vite lui dire qu'il s'en aille, tout de suite. Je veux pas de lui ici, j'en veux pas !» Carmine interrogea ses autres frères pour se concerter avec eux, puis il se dirigea vers la maison en faisant signe de le précéder à sa petite nièce, l'orpheline qui, toute joyeuse, avait annoncé l'arrivée de son oncle, le prêtre. Dans la cour, Carmine trouva un fermier du patron de Lobruno. Il était assis sur le petit mur près de la porte. Sans doute, le prêtre était arrivé avec lui. « Ton père ? » interrogea le fermier en levant la tête et en balançant une baguette qu'il tenait à la main et dont il frappait d'un arbrisseau qui poussait entre les pavés de la cour. « Il veut pas le voir, » riposta Carmine. Il veut pas de lui à la maison. Je suis venu pour le lui dire. Attends, reprit le fermier. Va dire à ton père avant tout que j'ai à lui parler au nom du patron. Va. Carmine leva les bras au ciel et rebroussa chemin. Le fermier alors appela à lui la petite qui ouvrait de grands yeux et qui comprenait rien à ce mystère, ni pourquoi l'arrivée de son oncle ne provoqua, comme toujours, la fête habituelle. Il la prit entre ses jambes et marmotta dans sa moustache avec un sourire triste. « Reste ici, ma mignonne, n'entre pas. Tu es petite, toi aussi, et on ne peut jamais savoir. » Peu après, Carmine revint, suivi de ses deux frères. « Le père va venir, » annonça-t-il au fermier. Et il entra avec ses frères dans la vaste pièce du rez-de-chaussée, humide, enfumée, noircie par la suie. D'un côté, c'était la crèche pour le bétail. Un âne y triturait patiemment sa ration de paille. De l'autre, un grand lit au pied de fer mal en équilibre sur le pavé de la chambre. Et tour à tour, les trois frères s'y jetaient la nuit, mais jamais tous les trois n'y couchaient à la fois, parce que l'un d'eux était toujours de garde au dehors. Le reste de la chambre était encombré de divers instruments de travail. Un petit escalier de bois conduisait à la chambre du grenier où couchaient les deux vieux et l'orpheline. Et Giovanni était assis au pied du lit, le buste replié sur les matelas amoncelés et la tête enfoncée sous ses bras. Sa vieille mère avait le regard fixé sur lui et elle pleurait sans s'arrêter, silencieusement, comme si tout son cœur, tout son être allait se dissoudre dans ses larmes. En entendant le pas de ses frères, le prêtre leva la tête et leur lança un coup d'œil farouche, puis il se cacha de nouveau le visage. Ses trois frères entrevirent aussi sa mine défaite et la barbe hirsute qui avait poussé sur son visage blême. Ils le contemplèrent quelque temps avec un sentiment de dégoût et de pitié à la fois. Ils remarquèrent sa soutane déchirée en plusieurs endroits, puis en baissant les yeux, ils virent que la boucle d'argent d'un de ses souliers manquait. À la vue de ses trois fils, la vieille mère éclata en sanglots et cachant son visage dans ses mains. « Mère, chut, mère !» lui dit Carmine, la voix étouffée par l'émotion. Et il s'assit taciturne auprès de ses deux frères sur le coffre de bois pour attendre le prêtre. Les trois frères avaient la même mine maladive, morne, la même charpente maigre et osseuse. Tous trois portaient le même bonnet noir en tricot avec la pointe rejetée en arrière et de petits anneaux d'or aux oreilles. En s'asseyant en rang, ils prirent la même attitude d'attente douloureuse. Enfin, le vieux apparut dans la cour, voûté, les mains derrière les reins, les yeux baissés. Il portait lui aussi un bonnet pareil à celui de ses fils, mais verdi par le temps et troué. Ses cheveux avaient allongé et ne s'étaient pas rasés depuis un mois. « Ciroli, courage !» s'écria le fermier de Lobruno, en écartant la fillette et se levant pour aller à la rencontre du vieux. « Courage, vous dis-je, tout est arrangé !» Le vieux Ciroli, sans mot dire, fixa ses yeux noirs, encore vifs, sur ceux du fermier, comme s'il n'avait pas compris ses paroles. Celui-ci, alors un gros homme réjoui au thorax énorme, au visage sanguin, lui posa une main sur l'épaule d'un air de protection effrontée et un peu ironique, et il répéta « Oui, tout est arrangé, arrangé, oui, c'est cela. » Et il rit sèchement, puis se reprenant. « Eh oui, mon ami, quand on a la chance d'avoir des maîtres qui tiennent à vous à cause de votre dévouement et de votre fidélité, certaines peccadilles peuvent se réparer. Une affaire d'enfant, après tout, vous entendez ce que je veux dire. Sans conséquence, pourtant j'ai pas voulu que cette innocence entre ici. Ai-je bien fait ?» Le vieux se contint, il était frémissant. « Et qu'avez-vous à me dire, en somme ?» lui demanda-t-il, le regard hautain. Le fermier retira sa main de l'épaule du vieux, croisa ses bras derrière le dos, bomba son thorax, et regardant Ciroli de son haut, il éclata. « M'y voici, oui. Le patron, avant tout, par respect pour la soutane de votre fils, et aussi en considération de vos services loyaux, a tant et si bien fait qu'il a réussi à persuader aux familles de ses pauvres enfants de se désister de leurs plaintes. Votre fils partira donc pour Acireale. » Ciroli, qui jusqu'ici avait écouté les yeux baissés, leva la tête. « Pour Acireale ? Oui, mon ami, notre évêque s'est mis d'accord avec l'évêque de là-bas. »« D'accord ? » demanda de nouveau le vieux. « Mais d'accord sur quoi ? Sur la purée, nom de Dieu, ne comprenez-vous pas ? » s'écria le fermier impatienté. « Ils veulent bien fermer les yeux, on ne parlera plus de l'affaire. » Le vieux pâlit, il serra les poings et murmura. « L'évêque fera cela ? » ?»« Oui, ceci est davantage. Votre fils restera un an ou deux à Acireale, en pénitence, jusqu'à ce que son histoire soit oubliée ici, puis il reviendra, et on lui rendra sa messe, n'en doutez pas. » « À lui ! » s'écria alors Ciroli, faisant de sa main tremblante un geste vers la maison. « À lui ! Il tiendrait dans ses mains souillées l'hostie consacrée ?» Le fermier haussa allègrement les épaules. « Ah, si monseigneur pardonne !»« Monseigneur, c'est possible, mais moi pas !» riposta sans hésiter le vieux, indigné en frappant sa poitrine creuse de sa main déformée et calleuse. « Vous allez voir !» Il entra, tout vibrant de colère et de mépris, dans la pièce du rez-de-chaussée. Il courut au lit où le prêtre était resté dans la même attitude. Il le saisit par le bras et le souleva avec une violente secousse. « Monte là-haut, cochon, va te déshabiller !» Le prêtre, debout au milieu de la chambre, sa soutane toute froissée sur les cuisses, ses maigres mollets à découvert, se cacha la figure dans ses bras. Les trois frères et la mère toujours assis, regardait avec consternation tantôt Giovanni, tantôt le père, qui n'avait jamais vu ainsi. Le fermier assistait à cette scène du seuil de la chambre. « Monte là-haut, te déshabiller !» répéta le vieux tout frémissant. « Ou je te fais déshabiller de force !»« Allez, voyons, monte, monte !» Et il le poussait rudement vers l'escalier de bois. Mais il se retourna vers sa femme qui sanglotait tout haut et lui imposa silence. La vieille étouffa brusquement ses sanglots en inclinant plusieurs fois la tête en signe de soumission. C'était la première fois que son mari lui parlait sur ce ton. Le fermier sur le seuil, choqué, haussa les épaules et marmotta « Mais pourquoi, vieil imbécile, puisque tout est arrangé ?»« Vous, silence !» cria le vieux en se tournant vers lui. « Vous irez rapporter la chose à monseigneur !» Il monta lentement l'escalier. Là-haut, Giovanni avait enlevé sa soutane et était resté en manche de chemise, avec son gilet et ses culottes courtes, assis près du lit du père. Dès qu'il l'aperçut, il se cacha la figure. Le vieux le contempla quelques instants, la figure contractée de mépris et de dégoût. Puis il lui ordonna « Arrache cette boucle à ton soulier !» Giovanni se baissa pour obéir. Le père alors s'approcha de lui et, apercevant la calotte qu'il avait gardée sur la tête, il la lui arracha avec une petite mèche de cheveux. Giovanni bondit sur ses pieds furieux, mais le vieux, d'un geste terrible, lui indiqua l'escalier. « Descends ! Ah non, attends, voici une pioche. Et c'est une grâce encore que je te fais là, car tu n'es pas même digne d'elle. Tes frères travaillent, et toi, tu ne peux pas travailler à côté d'eux. Tes efforts même ne seront maudits de Dieu. » Resté seul, il prit la soutane, la brossa, la replia avec soin et la baisa. Il ramassa par terre la boucle d'argent, puis la calotte et les baisa aussi. Puis il ouvrit un vieux coffre de sapin qui ressemblait à un cercueil, et où il conservait religieusement les vêtements de ses trois enfants morts, et traçant dessus le signe de la croix, il y serra aussi les vêtements de son fils, le prêtre, son dernier mort. Il referma le coffre, s'assit dessus, et se couvrant le visage de ses mains, il éclata en pleurs violemment.